Les zones d'ombre de l'histoire.
Le bureau déclare que les impérialistes mènent une course aux armements d'une ampleur sans précédent et accélèrent les préparatifs de guerre. Comme vous le savez, l'un des éléments cruciaux d'une stratégie nucléaire est de frapper de telle manière qu'une seule frappe désactive autant d'installations vitales de l'ennemi que possible. Ainsi, celui qui connaît le mieux les objectifs, les intentions et la nature complète des préparatifs militaires et politiques de l'autre camp prendra l'avantage bien avant que les missiles n'atteignent la cible. À cet égard, bien avant l'apparition d'une confrontation militaire, une confrontation des services de renseignement surgit. Notre objectif est de gagner cette confrontation. Le service de renseignement extérieur du KGB joue un rôle clé dans la réalisation de cet objectif. Il a beaucoup d'expérience et lutte efficacement contre l'ennemi. Mais aujourd'hui, nous devons réfléchir à la manière d'accroître encore son efficacité face à des tâches nouvelles et plus complexes. En bref, les services de renseignement doivent apprendre à agir de manière plus ciblée, plus précise et plus rapide. L'objectif est de ne pas rater les préparatifs militaires de l'ennemi, le principal ennemi, les États-Unis. Ces préparatifs en vue d'une frappe nucléaire et de ne pas rater le risque réel d'éclatement d'une guerre. Il s'agit là d'extraits d'un long discours prononcé par Yuri Andropov, à l'époque directeur du KGB, les services de renseignement de l'URSS. On peut considérer ce discours comme l'acte fondateur d'une des opérations de renseignement les plus importantes menées par le KGB, dans un climat de tension majeure entre les États-Unis et l'Union soviétique. Connue sous le nom d'opération Ryan pour Raketno Yaderno Napardoni, en français « attaque de missiles nucléaires », celle-ci s'inscrit dans le contexte d'une relance de la course aux armements, mais aussi dans un climat psychologique très particulier. En effet, la paranoïa s'est installée chez un très grand nombre de responsables militaires ou du renseignement soviétique. Et aux États-Unis, le locataire de la Maison-Blanche, le président Ronald Reagan, adopte une rhétorique provocante, un anticommunisme primaire directement hérité du maccartisme. Le monde le saura bien plus tard, mais nous sommes passés très près d'une troisième guerre mondiale, un affrontement qui aurait été nucléaire. Je reviens pour vous aujourd'hui sur cette opération Ryan et sur ses circonstances.
Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. Nuclear war, yeah. The nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? They're talking about nuclear war, yeah. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. It's a motherfucker, don't you know? It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass got to go. It's a motherfucker, don't you know? If they push that button, your ass got to go. They're talking about, yeah. Nuclear war. They're talking about, yeah. Nuclear war, yeah. If they push that button, your ass got to go.
Your ass got to go.
They're talking about, this nuclear war.
They're talking about,
nuclear war.
Nuclear war.
If they push that button,
if they push that button,
your ass got to go.
Your ass got to go.
Durant la première moitié des années 70, la guerre froide avait connu une relative accalmie. Bien sûr, l'espionnage réciproque se poursuivait, et chaque camp continuait à avancer ses pions sur l'échiquier mondial. Mais il se passa plusieurs années sans que n'éclate une crise majeure. À partir de la fin de l'année 1976, l'URSS commence le déploiement de nouveaux missiles. Ils sont nommés SS-20 et leur capacité est intermédiaire par rapport aux autres missiles dont dispose déjà l'Union soviétique. Si les armes en place jusqu'alors sont très puissantes et ont surtout une fonction dissuasive, les SS-20, de capacité destructrice moindre, pourraient être utilisés pour viser des objectifs très précis sans provoquer un cataclysme mondial. Aujourd'hui, on appellerait cela des frappes chirurgicales. Ce choix stratégique survient au beau milieu des négociations engagées entre Moscou et Washington pour tenter de maîtriser la course aux armements. Mais ces négociations concernent uniquement les missiles intercontinentaux et les missiles à longue portée, pas ceux de capacité intermédiaire. Officiellement, Moscou ne commet donc aucune entorse au pourparlers. Néanmoins, l'inquiétude gagne les pays européens, qui considèrent que SALT va peut-être réguler la prolifération des armes nucléaires entre les États-Unis et l'Union soviétique, mais laisse de côté la question de l'équilibre des forces en Europe. Si jusqu'à présent, l'Europe n'avait qu'à craindre une invasion militaire terrestre, à laquelle elle pouvait d'ailleurs faire face, le déploiement de ces missiles met de nombreux objectifs stratégiques européens à portée du feu nucléaire soviétique. On le saura plus tard, mais cette évolution stratégique correspond à une montée en puissance de l'armée et des services de renseignement, dans un contexte où le dirigeant soviétique Léonid Brejnev est malade et affaibli. En 1978, l'OTAN préconise en réponse une modernisation de l'armement nucléaire de moyenne portée. À l'automne 1979, Léonid Brejnev propose un arrêt du déploiement des missiles SS-20 si l'Europe renonce à ses plans de modernisation. Mais bien entendu, les Européens ne peuvent accepter cette proposition, car elle entérinerait de fait le déploiement déjà commencé par Moscou. En décembre 1979, les membres de l'OTAN décident donc de doter l'Europe de missiles Pershing 2. Le 27 décembre, les chars soviétiques entrent dans Kaboul. L'armée rouge fait irruption en Afghanistan pour soutenir un régime qui lui est favorable et qui vacille. D'un seul coup, le monde fait un bond de 20 ans en arrière, à l'époque où Moscou intervenait à sa guise en Europe de l'Est. À l'automne 1980, les Américains se choisissent un nouveau président, Ronald Reagan. Son abord des relations avec l'URSS est bien différent de son prédécesseur. Dès son investiture, le nouveau locataire de la Maison-Blanche adopte une rhétorique belliqueuse contre l'Union soviétique, redevenue le grand ennemi des États-Unis, et le communisme symbolisant une opposition au monde libre. Les propos de Reagan, maintes fois répétés, vont avoir une influence sur Yuri Andropov, à l'époque directeur du KGB. Andropov va en effet se persuader que les États-Unis préparent à plus ou moins long terme une offensive nucléaire contre l'Union soviétique. Le directeur de la centrale de renseignement va parvenir à convaincre de nombreuses personnes dans les cercles du pouvoir du bien fondé de ses craintes. Dès le printemps 1981, il opère une réorientation du KGB dont tous les efforts doivent désormais être concentrés sur le recueil d'informations concernant les préparatifs de guerre émanant des États-Unis. En juillet 1981, par exemple, Yuri Andropov souligne au cours d'une conversation avec Erich Milke, le ministre de la Défense d'Allemagne de l'Est, le rôle important que son pays joue et doit continuer à jouer dans cette opération de renseignement. Dans ses conversations à ce sujet, Andropov insistera souvent sur, selon lui, le caractère imprévisible de Ronald Reagan. Pour tenter de résoudre la crise des missiles, l'Europe ouvre des négociations avec l'URSS. Mais les Européens ne savent pas qu'un vent de panique souffle sur Moscou. En novembre 1982, à la mort de Léonid Brejnev, c'est Yuri Andropov qui devient secrétaire général du Parti communiste soviétique. Et en juin 1983, il accède à la présidence du Présidium du Soviet suprême. Quelques mois plus tôt, le 23 mars, Ronald Reagan a dévoilé un programme militaire particulièrement ambitieux appelé « Initiative de défense stratégique », qui sera bientôt surnommé « Guerre des étoiles ». Il s'agit pour les États-Unis de développer une sorte de bouclier spatial antimissile. Le principe repose sur le développement de missiles munis d'explosifs venant heurter dès leur lancement des missiles nucléaires tirés d'un territoire ennemi. Ce programme s'appuie bien entendu sur un réseau de satellites importants. Les responsables militaires états-uniens ont-ils réellement cru au réalisme d'un tel programme ? Dans le monde du renseignement, on a énormément discuté de la dimension manipulatrice de cette annonce. Apparemment, les services de renseignement américains savaient que le retard technologique pris par l'Union soviétique était très important et que les moyens humains et financiers dont disposait Moscou ne permettaient pas de rivaliser avec les ambitions affichées par les États-Unis. Néanmoins, il manque à la CIA une donnée essentielle, le climat de paranoïa qui s'est installé au Kremlin. L'annonce de Ronald Reagan va sonner comme un véritable coup de tonnerre. Si le programme d'initiative de défense stratégique n'a pour le moment rien de concret, sur le terrain, en revanche, l'armée américaine a débuté une stratégie qui vise à la fois à tester la défense soviétique, mais aussi à la harceler. Le but de l'armée américaine est de montrer à Moscou que leurs systèmes de surveillance sont inopérants. Dans les airs et sur mer, l'armée américaine procède toujours de la même manière. Il s'agit soit de s'approcher au plus près des frontières militaires soviétiques, soit de violer carrément l'espace aérien ou maritime. Au printemps 1983, par exemple, des sous-marins américains réussissent à s'approcher dangereusement de l'île de Sakhalin, où l'Union soviétique dispose d'une très importante base militaire. On va le voir, cette stratégie américaine ne va pas tarder à avoir des conséquences dramatiques.
Radio Campus Paris, les zones d'ombre de l'histoire.
Le jeudi 1er septembre 1983, un Boeing 747 de la compagnie Korean Airlines se trouve en bout de piste sur l'aéroport d'Anchorage. C'est la nuit, et l'appareil qui vient de New York s'apprête à redécoller pour la dernière partie de son vol. Il doit rejoindre Séoul. Il y a 269 passagers et membres d'équipage à bord. Pour rejoindre la capitale sud-coréenne, les pilotes doivent emprunter un couloir qui longe un espace aérien normalement interdit à l'aviation civile par les autorités soviétiques. Cette zone, considérée comme sensible par Moscou, comprend la péninsule du Kamtchatka, la mer d'Okhotsk et l'île de Sakhaline. Dans cette région se trouvent les plus importantes bases militaires soviétiques du Pacifique Nord. Les pilotes savent que dans cette zone, il faut redoubler de vigilance pour ne pas risquer de franchir l'espace aérien de l'URSS. Ce qu'ils ne savent sans doute pas en revanche, c'est que l'aviation comme la marine américaine violent régulièrement cette zone afin de tester les capacités de réaction soviétiques. Le vol KAL 007 s'apprête donc à longer une zone où les deux superpuissances se livrent à une guerre des nerfs. Mais le long courrier ne tient pas son cap et franchit l'espace aérien interdit. Ce n'est pas l'aviation civile qui va immédiatement communiquer, mais la CIA, qui annonce que l'appareil a été victime d'un problème. Les heures passent et il faut se rendre à l'évidence. L'avion s'est probablement écrasé à l'intérieur de la zone militaire soviétique. La communauté internationale est consternée car il apparaît évident que l'avion a été abattu par la Russie. Le président Reagan se déchaîne et accuse les Soviétiques d'avoir perpétré un massacre. Il parle même de crimes contre l'humanité. Moscou se mure d'abord dans le silence, puis accuse les pilotes du vol KAL 007 de s'être livrés à une mission d'espionnage. L'affirmation paraît absurde et même indécente. Pourtant, on apprendra plus tard qu'un Boeing RC-135 américain volait dans cette même zone quelques heures plus tôt. Le RC-135 est un appareil bourré d'électronique, que l'armée américaine utilisait régulièrement lors de ses incursions dans l'espace aérien ennemi. Dans une enquête minutieuse, le journaliste Seymour Hersh établira que l'US Air Force a très vite émis la possibilité que la défense aérienne soviétique ait pu confondre le Boeing sud-coréen avec un de leurs RC-135. Mais le gouvernement américain se garde bien de divulguer cette information. La catastrophe entre bien vite dans la sphère géopolitique de la guerre froide. Les États-Unis vont en effet produire une vidéo basée sur l'interception des communications entre Gennady Osipovitch, le pilote qui a abattu le Boeing, et sa base. Vidéo qui sera projetée au Conseil de sécurité de l'ONU. À son sujet, le secrétaire d'État George Shultz écrira dans une note au président Reagan qu'il s'agit d'un effort massif de relations publiques pour exploiter l'événement. De leur côté, les Russes ne coopèrent pas aux recherches et laissent la communauté internationale prospecter seule. Les recherches sont vite abandonnées car on pense que l'appareil s'est abîmé en mer. Moscou va alors mener ses propres investigations et retrouver l'épave de l'avion en mai. Elle récupère les boîtes noires mais n'informe personne. Les années qui vont suivre seront source de nombreuses théories autour de cette catastrophe. Et si le manque de coopération de Moscou y est évidemment pour quelque chose, l'exploitation de la catastrophe par les Américains va aussi entraîner certaines questions. L'interrogation lancinante porte sur la possibilité que l'armée soviétique ait pu confondre le long courrier avec un avion militaire US. Selon toute vraisemblance, l'explication de la catastrophe tiendrait en deux paramètres. D'une part, les pilotes du Boeing ont, semble-t-il, fait preuve d'une incroyable légèreté. Pour un vol de ce type, la navigation est confiée à un système de pilotage automatique, auquel on peut soit indiquer un cap global, soit un plan de vol très précis. Il semble que ce soit la première option qui a été choisie. Si tel est le cas, la négligence est incroyable, car nous l'avons dit, la proximité d'un espace aérien très sensible exigeait une trajectoire très précise du Boeing. Il semble aussi que Gennady Osipovitch, le pilote chargé d'intercepter la cible, n'a pas mis en place toutes les procédures pour que les pilotes sud-coréens comprennent qu'on les forçait à atterrir. La procédure de contrainte à l'atterrissage sous l'autorité d'un autre avion suit des codes très précis et identiques dans le monde entier. Il est difficile d'imaginer que les pilotes sud-coréens aient pu poursuivre leur vol tout en ayant remarqué qu'on les contraignait à atterrir. À la fin des années 80, Michel Brun, qui travaille pour Fund for Constitutional Government, et John Keppel, un ancien diplomate, proposent une version totalement différente du crash. Pour eux, l'avion aurait été sciemment envoyé dans l'espace aérien soviétique grâce à un dérèglement volontaire de son système de navigation, lors de son escale à Anchorage. Il aurait franchi sans encombre l'espace aérien soviétique, mais son passage aurait déclenché une véritable bataille aérienne au-dessus de l'île de Sakhalin. C'est en quittant l'espace aérien soviétique et en entrant dans l'espace aérien japonais que le long courrier aurait été abattu par l'armée américaine, le prenant pour un avion russe en mission de représailles. Il faut mentionner que le 3 juillet 1988, les États-Unis se retrouveront dans la même position que les Russes en 1983. L'USS Vincennes va en effet tirer un missile sur un Airbus Iran Air, l'ayant confondu avec un chasseur de l'armée iranienne. Le crash fera 290 victimes. En position d'accusé, les Américains, qui ont toujours Ronald Reagan pour président, nieront dans un premier temps. Si cette catastrophe n'entraînera pas d'inquiétude d'une escalade militaire, il en est en revanche tout autrement s'agissant du vol de la Korean Airlines. Dans les colonnes du journal Libération, Serge Julie écrit en substance que si une nation est capable de descendre froidement un avion de ligne, qu'en est-il de sa capacité à déclencher une attaque nucléaire ? L'éditorialiste est loin de se douter qu'en fait à Moscou, on vit dans la peur d'une attaque nucléaire bien plus que dans la perspective d'en déclencher une.
Thank you.
Les zones d'ombre de l'histoire.
À partir de 1981, le KGB va donc lancer un vaste programme ayant pour but de recueillir le maximum d'informations sur une attaque nucléaire en provenance soit des États-Unis, soit des forces de l'OTAN. Le grand paradoxe de cette opération, qui prendra bientôt le nom de Ryan, est qu'elle repose sur des intuitions complètement fausses. Yuri Andropov et ses conseillers se persuadent par exemple que l'attaque pourrait avoir lieu sous couvert de manœuvres militaires. Ainsi, quelques mois avant le début des exercices Able Archer 83 en Europe, un câble diplomatique a été envoyé à tous les chefs des antennes de renseignement du KGB dans le monde, intimant aux équipes de concentrer tous leurs efforts sur la collecte d'informations indiquant les préparatifs d'une attaque contre l'Union soviétique. L'agent double Oleg Gordievsky livrera quelques années plus tard le contenu de ce câble diplomatique. On demandait aux agents d'établir des relevés très précis, comme par exemple de s'informer sur les endroits où les dirigeants des pays seraient évacués au moment de l'offensive, les lieux des abris de la protection civile ou encore le niveau des stocks de sang. On recommandait aussi d'accroître la surveillance des institutions gouvernementales et des services de renseignement, avec une attention toute particulière pour les ministères directement concernés par le déclenchement d'une opération. On demandait par exemple aux agents d'observer les bâtiments des ministères concernés en fin d'après-midi et de relever si un nombre important de fonctionnaires restait dans les bureaux après l'horaire supposé de fin de journée. Dans le même ordre d'idées, les agents devaient essayer de s'introduire dans les parkings des mêmes ministères pour observer s'il restait beaucoup de voitures après la fermeture des bureaux. Ceci pouvant indiquer que des fonctionnaires travaillaient davantage. Cette suractivité étant bien sûr peut-être le signe de la préparation de l'attaque tant redoutée. Le télégramme expliquait aux agents que plus tôt on obtiendrait les preuves d'une offensive occidentale en gestation, plus vite le Kremlin pourrait réagir en déclenchant une attaque préventive. Les États-Unis ont à cette époque joué aux apprentis sorciers. Non seulement ils avaient enclenché une politique de harcèlement dans certaines eaux sensibles du territoire de l'URSS, mais en avril et mai 1983, par exemple, ils vont monter une opération simulant le déclenchement d'une guerre contre les forces soviétiques dans le Pacifique. L'armée américaine va engager près de 40 navires dans l'exercice. Des avions vont même simuler le bombardement d'un site militaire sur l'île de Zeleny. À chaque fois, les soviétiques protestent et préviennent que les Américains devront assumer les conséquences. Mais à Washington, on fait la sourde oreille. Le 6 avril, deux avions soviétiques pénètrent l'espace aérien américain au-dessus de l'Alaska. Un tel fait n'était pas arrivé depuis le mois de mars 1969. Yuri Andropov demandera à son armée de systématiquement tirer sans sommation sur tout appareil qui survolera une zone militaire. Nous sommes 5 mois avant la catastrophe du vol sud-coréen. Le futur déploiement des missiles Pershing 2 en Europe ajoute encore à la pression ressentie à Moscou. En effet, jusqu'à présent, l'URSS était à environ 30 minutes d'atteinte des missiles de moyenne portée américains. Si l'Europe de l'Ouest se dote d'armes similaires, l'Union soviétique devient beaucoup plus vulnérable. Il faudra entre 4 et 8 minutes selon l'objectif choisi pour qu'un missile tiré depuis l'Europe de l'Ouest atteigne sa cible. Il faut ajouter que ces armes peuvent être tirées depuis des véhicules. Elles sont donc à l'abri de destruction préventive. Partagés entre la réalité militaire et l'éloignement du monde occidental, les dirigeants soviétiques vieillissants vivent dans une peur permanente. À une centaine de kilomètres de Moscou se trouve l'une des bases de surveillance de l'espace aérien soviétique. Le centre de Kurilovo recueille ses données du réseau satellite de l'URSS, puis les confronte avec les écrans radars. Il est 0h15, cette nuit du 26 septembre 1983, lorsque l'alarme retentit. Le satellite Cosmos 1382 vient d'identifier un missile tiré depuis la côte ouest des États-Unis en direction de l'Union soviétique. Le responsable de la base cette nuit-là, le lieutenant-colonel Petrov, doit réagir très vite. Pourtant, il a un doute. Ces satellites ne sont pas fiables à 100%. Contactant l'officier chargé de la surveillance radar, ce dernier l'informe que ses conditions d'observation sont mauvaises et qu'il est dans l'incapacité de confirmer ou infirmer l'information. Si Stanislav Petrov informe le Kremlin, Moscou déclenchera le feu nucléaire. L'alarme retentit alors une seconde fois à Kurilovo, puis une troisième, une quatrième et une cinquième fois. Ce seraient 5 missiles nucléaires qui auraient été tirés par les États-Unis. Il s'est passé près de 25 minutes depuis la première alerte, mais aucun missile n'a frappé le territoire de l'URSS. Le lieutenant-colonel Petrov a eu raison de douter. Il s'avérera que le satellite Cosmos a réagi au reflet du soleil sur un lac américain. Il n'est pas exagéré de dire que la Troisième Guerre mondiale a été évitée de justesse ce 26 septembre 1983. Cet épisode restera secret jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Mais quelques mois plus tard, le monde s'est à nouveau trouvé au bord de l'abîme. Le 7 novembre débute l'exercice militaire Abel Archer 83. Il s'agit pour les forces de l'OTAN de tester certaines procédures, et notamment celles conduisant à des frappes nucléaires. On va alors constater une suractivité dans les bases aériennes des forces du pacte de Varsovie, situées en RDA et en Pologne. Le 11 novembre, les exercices se terminent et on observe que les bases de défense soviétiques reprennent une activité normale. À l'évidence, l'URSS était inquiète de ces exercices. On apprendra grâce à Oleg Gordievsky que cette inquiétude avait pris des proportions très importantes. Diplomate à l'ambassade soviétique de Londres, Oleg Gordievsky est en fait le résident du KGB dans la capitale britannique. Mais c'est un agent double qui travaille depuis plusieurs années pour le MI6, les services de renseignements anglais. Oleg Gordievsky va apprendre qu'à l'occasion de l'exercice Abel Archer 83, ce ne sont pas seulement les bases aériennes européennes de l'URSS qui ont été mises en alerte, mais aussi la défense nucléaire sur le territoire russe, et que des missiles ont été mis en position de tir. L'agent double croit alors utile de faire comprendre aux responsables du MI6 l'état d'esprit qui règne tant au Kremlin qu'au KGB ou au GRU, les services de renseignement de l'armée. Il informe de l'existence de l'opération Ryan. La première ministre britannique, qui prenait régulièrement connaissance des notes fournies par Gordievsky au MI6, va alors prendre conscience du danger et jugera utile d'en informer la Maison-Blanche. Bien après avoir quitté le pouvoir, Ronald Reagan confiera qu'il était loin de se douter de l'état d'esprit qui régnait à Moscou. Une légèreté qui a bien failli nous coûter très cher. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode des Zones d'ombre de l'histoire. Et d'ici là, vous pouvez vous rendre sur la page de l'émission Les Zones d'ombre de l'histoire sur le site de radiocampusparis.org pour écouter tous nos anciens podcasts.